retrouvé à une réunion de prière à Lannion. Et j'ai prié sur ce sujet. Pourquoi? Parce que si vous avez lu la presse, ou si vous aviez lu la presse, vous auriez vu qu'il y a, en France en tout cas, hein, je ne parle que sur le plan français, une forte évolution de ce que nos autorités pensent et essayent de mettre en place et qui touche à nos libertés de confession. J'ai prié et à la sortie du local, plusieurs frères sont venus me dire « Qu'est-ce que tu as voulu dire ? On n'a rien compris. » Effectivement, c'est un sujet qui n'est pas classique, mais c'est un sujet qui nous touche tous à l'école, comme père et mère avec nos enfants, pour les enfants bien sûr aussi, au travail et dans la société. C'est un sujet qui nous touche de près. Quel témoignage est-ce que nous pouvons avoir? Alors, nous devons être profondément reconnaissants pour cette liberté que nous avons actuellement pour nous réunir. Ce que je vais exprimer, ce que nous allons exprimer, n'est pas du tout une critique. Bien au contraire. Pour beaucoup, c'est un sujet de reconnaissance, de pouvoir vivre dans un pays comme le nôtre. Nous sommes en paix. Nous pouvons témoigner et nous pouvons le faire en conformité des lois, ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres pays du monde. Alors, il y a une première partie que va exposer Gérard, c'est nous avons un devoir de mémoire envers les chrétiens qui ont combattu pour leur foi. Et puis, on enchaînera avec une interruption, nous chanterons 2-3 cantiques, on va essayer de faire 35 minutes chacun. Peut-être qu'il faudra que l'on raccourcisse un petit peu parce que c'est un sujet dense. Sachez aussi que nous tenons à votre disposition ce que nous avons écrit, l'un et l'autre, sur ce sujet, beaucoup plus complet que ce qui sera exposé. Et donc, un point sur la laïcité et son influence sur nos comportements. Pourquoi, donc, j'y reviens brièvement, les chrétiens en France sont dans une république laïque. Et on verra ce que cela veut dire tout à l'heure. Savons-nous ce qu'est cette laïcité en 2013? Connaissons-nous nos droits et nos devoirs? C'est important pour le témoignage que nous avons à rendre ici-bas. Et quel impact sur nos comportements? Ça aussi, c'est quelque chose de très présent actuellement. Je laisse donc la parole à Gérard pour la première partie.
Quand Peter m'a proposé de traiter le sujet, j'ai dit la laïcité, je ne connais pas trop. Enfin, je la vis parce que je suis fonctionnaire, je suis ancien fonctionnaire en retraite, anciennement. J'ai vécu ma carrière sans être trop branché sur le problème. Mais je lui ai proposé, étant un peu ayant l'histoire, disons, je lui ai proposé de voir avant la liberté liée à la laïcité, et il faut quand même en France reconnaître que la laïcité nous a donné, en tant qu'évangélique, un droit officiel d'existence. N'est-ce pas ? Jusque-là, on n'est pas persécuté, je m'entends bien, mais jusqu'aux lois de 1905, on n'avait pas de droit officiel d'existence. Et entre parenthèses, je vous dis une petite anecdote, le ministre de l'époque, M. Combes, qui a été le père de la laïcité française, et c'est parce que l'Église de l'État qui n'était pas très croyant, naturellement, disait lui-même, les meilleurs supporters, ce sont les évangéliques. Qui étaient, parce que finalement, le gros problème était contre l'Église catholique et toutes les confessions, tout ce qu'ils avaient mis en place. Bon, je passe Alors, je me propose d'abord, voilà, le plan, si vous voulez, une courte introduction, quatre points. Je m'excuse auprès des historiens, s'il y en a dans la salle, je vais faire vite. Il y a bien d'autres choses à dire, mais je ne peux pas le dire. Et je m'excuse auprès de ceux qui n'aiment pas l'histoire. Excusez-moi, il y a un peu d'histoire. Donc, pourquoi la réforme? 16e siècle, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'événement qui se bouscule, qui bouscule tout ce qui s'est vécu jusqu'à maintenant? Pourquoi les guerres de religion? Les 8 guerres de religion qui ont sanglanté la France. La providence de Dieu à travers les, qui ont conduit des événements, 3 édits royaux, qui sont d'importance. Je parlerai, j'en parlerai rapidement, je montrerai quelque part Dieu derrière. Et puis après, je me propose de faire, et ça me fait plaisir de pouvoir le faire ici, un petit, une présentation sur le plateau, que j'aime beaucoup. Et sur l'esprit du plateau, qui a interrogé les historiens. C'est une exception, vous savez, en France, on a beaucoup les exceptions en France, et c'est une exception culturelle que cet esprit du plateau. Et donc, je ferai un point sur le plateau, et une conclusion. Alors d'abord, pourquoi j'ai proposé à Peter de commencer par le passé? Bien, deux choses m'ont retenu. C'est d'abord que judaïsme et christianisme sont bâtis sur la mémoire. Et si nous prenons, là, dans la plupart des traductions, on a pour l'Exode, pour la jour de Pâques, n'est-ce pas, un événement capital, clé, majeur de la pensée d'Israël, du peuple juif. Ce jour-là, vous en ferez mémoire. Et pour ce qui est, nous, de la scène, qui est aussi l'événement de souvenir, disons, qui est important, faites ceci en mémoire de moi. La mémoire est un peu différente du souvenir, n'est-ce pas? Alors, je fais rapidement, n'est-ce pas, 2 conceptions du temps. N'oublions pas que tout ce que nous avons reçu de la Bible, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament, sont façonnés par un esprit sémitique. Jésus parlait, n'est-ce pas, en araméen, qui est une dérive, une dérivée de l'hébreu. Le grec, nous sommes des occidentaux. Alors, pour faire court, on a la conception occidentale, nous divisons le temps en passé, présent, futur, et dans notre Occident actuel, on aime bien les cases. On met ça dans une case, c'est bien, ça peut servir un jour, on peut le retrouver, mais on est dans le présent et voir le futur. Là, on classe les événements. Dans la conception juive, c'est tout à fait différent. C'est, nous sommes dans une attention sur le temps, et la progressivité du temps, la progression dans le temps. Le passé n'est jamais loin du présent, ni du futur. D'ailleurs, ceux qui ont traduit, n'est-ce pas, la Bible de l'hébreu en français, savent, n'est-ce pas, mieux que moi, ce que se représente une traduction des temps en de l'hébreu en français. C'est très compliqué, très compliqué. Et d'ailleurs, dans les versions, on a ces changements de temps, ils expliquent par le problème. Alors, je pense qu'il est juste de faire mémoire. Nous devons faire mémoire à ceux qui nous ont précédés. Et nous devons dire à ceux qui nous suivent ce qui s'est passé avant. C'est donc dans ce but-là que j'interviens. Un petit flash sur la réforme, un événement bien connu au niveau du nom, que s'est-il passé? Nous sommes au XVIe siècle. Pas de télévision, pas d'internet, pas de moyens de communication, et pourtant, curieusement, des événements passés dans un petit village de Saxe à Wittenberg qui inondent l'Europe. Pourquoi? Que s'est-il passé? Alors, nous avons, je passe rapidement parce que ce serait trop long de rentrer dans les détails, on a 3 points, 4 points, une crise matérielle. Nous sommes, n'est-ce pas, dans une époque pré-réforme de crise matérielle sévère. Les rendements à l'époque sont de 2 à 3 on récolte 3 fois, 4 fois ou mieux ce qu'on a semé. Parfois 2, parfois 1, parfois 0. Famine. Dit famine, dit épidémie. Et nous sommes dans cette crise-là. Plus la fin de la guerre de 100 ans. Certes, la guerre de 100 ans n'a rien à voir avec nos guerres mondiales. Rien à voir, n'est-ce pas? Parce qu'à l'époque, on tuait les hommes un après l'autre. Et en face à face. Maintenant, on les tue de loin. Et en masse. Mais n'empêche. Ce sont des pillages, ce sont des, tout ce qu'on de violences diverses et variées. Je passe. Église omniprésente. L'Église, n'est-ce pas, constantinienne, depuis Constantin 313, qui a toléré l'Église, enfin, le christianisme en France, en Europe, devient omniprésente. Conséquence, l'État civil, c'est l'Église. Je parle pour la France. Baptême, mariage, sépulture. Si vous voulez, vous êtes malade, l'hôpital, c'est l'Église. L'enseignement, c'est l'Église. Si vous n'êtes pas de l'Église, vous n'avez droit à rien. Donc, et puis les sacrements, je précise d'entrée de jour. Ce que je vais dire, l'Église catholique peut être prudent et être, disons, honnête. Mais, ce qui s'est passé, c'est que la théologie catholique a été reprise, a été radicalisée, a été vulgarisée, a été raccourcie de façon absolument absurde, disons. Quand on lit les textes officiels sur les indulgences, par exemple, on n'a pas du tout ce qui s'est passé. Mais que ce soit passé comme ça, j'en doute pas un instant. Seulement, soyons honnêtes, on ne peut comparer une théologie que ou par le sommet ou par la base. Mais ne mélangeons jamais la base et le sommet. Ce qu'on a plus tendance à ne pas faire. Donc, être prudent. Alors, ceci étant dit, l'Église catholique, ce qui s'est passé, effectivement, a donné lieu à des trucs effarants, sans tant que. Donc, les sacrements ont valeur salvatrice. Baptême, le mariage, avec l'onction du prêtre, pas problème. Et puis, le commandement de la Bible qui est réservé. Là encore, je passe parce qu'il y a des raisons, mais je n'ai pas le temps d'en parler, disons, mais c'est réservé au prêtre, n'est-ce pas? Autrement dit, nous avons même une époque du Moyen-Âge où les évêques étaient enchaînés, mais physiquement enchaînés. N'est-ce pas? Il fallait pas, on n'avait pas le droit, d'ailleurs, de peur de mal interpréter le texte, de peur peut-être de voir des choses qui sont que l'Église ne pratiquait pas tout à fait dans la même pensée. C'est le problème à l'époque, n'est-ce pas, nous avons un problème assez frappant. C'est que quand il y a crise, il y a questionnement religieux. Pourquoi cela? Pourquoi ces famines? Pourquoi cette misère? Pourquoi cette crise? Eh bien, ce questionnement religieux a une réponse. Mais c'est le grand péché des hommes. Dieu intervient. Dieu va manifester sa colère, son courroux, contre le péché des hommes. Et il y a là deux réponses. La réponse de l'Église, de façon, je dis, caricaturale, je m'entends bien, je ne voudrais pas me faire comprendre. L'Église, les indulgences de l'argent ouvrent le ciel. Et la Luther, je vais en parler tout à l'heure, Luther, le salut par la grâce, on est dans la foi. Deux réponses s'offrent aux gens de l'époque. Luther, un chrétien courageux. Famille paysanne, un homme brillant, mais du Moyen-Âge. Moyen-Âge. C'est un homme qui est interrogé par ses problèmes existentiels sont là. L'interroge tellement que cet homme va rentrer dans l'église, va rentrer dans un monastère et va chercher, et il a dit lui-même, mais s'il y a un moine qui gagnerait le ciel par la moinerie, je serais celui-là. Se dire, n'est-ce pas, à quel point cet homme-là, et c'était vraiment, a vraiment vécu de près les contraintes monastiques. Son confesseur, n'est-ce pas, qui le dirigeait, va lui proposer Écoutez, il faut lire la Bible, devenir professeur d'écriture. Et voilà, lisons la Bible. Dévorons. Et naturellement, c'est dans l'Épître aux Romains, vous lirez 1 Romains 1:17, le verset qui l'a frappé. Dès-moi pour le comprendre. Dès-moi pour comprendre que la justice de Dieu n'est pas l'image de la justice des hommes. Ce n'est pas la même justice. Celle de Dieu, c'est la grâce, par la foi. Donc, alors, là-dessus, il est, n'est-ce pas, l'évangile et la puissance de Dieu, sauver quiconque croit, la justice de Dieu qui est révélée sur la base de la parole, le verset choc de Luther. Fait divers. Dans sa paroisse. En proximité de sa paroisse. Un représentant de commerce religieux, je vous l'ai guillemets, n'est-ce pas, envoyé par Rome, vient proposer des indulgences. Des indulgences pour justement gagner le, pour répondre à cette angoisse existentielle, mais donner de l'argent. L'église de Saint-Pierre à Rome, magnifique église, splendide, et vous gagnerez le ciel. Alors, Luther est outré. Il a découvert, lui, le salut par la grâce, moyennant la foi. Il est outré. Mais il dit, mais mes pères, mes collègues ecclésiastiques font erreur. Ils font erreur. Je vais leur demander de réfléchir ensemble. Et le voilà qu'il affiche, n'est-ce pas, sur la porte de l'église de Wittenberg, en 1517, les 95 thèses. Où il dénonce des erreurs énormes. Mais dans sa tête à lui, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait à quoi? Il pensait simplement que ses pères allaient réfléchir. Et il les invitait à la fin de 95, venez, on va discuter ensemble. Les pères ont ignoré cet appel. Mais curieusement, ce sont les imprimeurs, ce sont les étudiants qui se sont saisis d'appel, et les voilà partis, nous avons l'imprimerie, n'est-ce pas, Gutenberg est passé par là, quelques temps avant, et nous voilà, n'est-ce pas, dans un démarrage extraordinaire de la pensée. Voilà un fait divers. Et du coup, Luther est débordé par l'événement, débordé par l'événement. L'objectif, donc, je sais ce que j'ai dit, je passe rapidement ces thèses sont condamnées par la Sorbonne à Paris, le Sorbonne, n'est-ce pas, le noyau dur de l'Église catholique à Paris. Ces convictions, rapidement, parce que ça vaut quand même, c'est intéressant de lire ces convictions. J'ai été mordant pour mes adversaires, non à cause de leurs mauvaises mœurs, mais à cause de leurs pernicieux enseignements. Il est possible que j'ai parlé trop haut, que j'ai attaqué tant d'injustices avec trop de violence. Mais qui puis-je? Mon devoir était de parler. J'aime mieux réexciter la colère du monde, celle de Dieu. Dès de voir brièvement l'empire de Charles Quint, je m'achète Charles Quint à l'époque, c'est un empire romain germanique, c'est un empire qui est compliqué. Avec des électeurs un peu de partout, un petit empire. Et la réforme va couper l'empire en deux. Des électeurs vont accepter la réforme, d'autres non. Alors, réunion annuelle de cet empire, dans différentes villes, où Charles Quint en présence, et les cardinaux, et tous les dignitaires, etc., en présence, et Luther est invité à Worms. Voilà ce qu'il dit. Dos au mur, face à tous ces dignitaires, il dit, je ne crois ni à l'infaillibilité pontifique du pape, ni à celle des conciles. J'ai été vaincu par les arguments bibliques, et ma conscience est liée à la parole de Dieu. Donc, c'est cette conviction-là qui a habité la foi des réformés qui vont suivre. Des changements, rapidement le papier, les laïcs qui ont accès à l'instruction, aux connaissances, le monde qui s'élargit, l'Amérique, cherchant complètement la physionomie du monde, la Terre n'est plus au centre de l'univers, et d'y aller, Copernic. Les églises multiplient, l'imprimerie. Les marchands ambulants. Vous savez, ces marchands, n'est-ce pas, qui à l'époque, nous, on n'a pas connu ça, mais à l'époque, n'est-ce pas, dans les villages, ils ameutaient les gens pour voir leur tableau. Et comment faisaient-ils pour les ameuter? Des nouvelles! Venez, venez, ouillez, braves gens, venez m'écouter! Des nouvelles! Et ils publiaient ces nouvelles-là. Peu importe s'ils croient ou pas, peu importe. Mais, et après, ils nous vendent un peu leurs marchandises. Voilà comment s'est passé, n'est-ce pas, de bouche à oreille, comment s'est passé, cela. Et naturellement, par la grande de parler, la voix de Dieu. Le message de Luther, donc, court le pays, L'au-delà ne s'achète pas. Il y a disproportion en donner de l'argent et le ciel, c'est clair. Et de ce fait, notre connaissance de Dieu se manifeste, le salut par la grâce et non par les œuvres. Rapidement, pourquoi les guerres de religion? Alors, si la France et si l'Europe a connu tant de problèmes, des guerres de religion impitoyables, des horreurs, il n'y a pas pire, n'est-ce pas, horreur que celle causée par la religion. Eh bien, il faut comprendre, n'est-ce pas, il y a une idée de base, centrale. C'est que la réforme pose le problème de l'unité religieuse du pays. Or, l'unité d'un pays, à l'époque de Louis XIV, par exemple, est la condition sine qua non de sa puissance. Et comment fait donc l'unité? Par la religion. Vous demandez, si vous coupez, si vous acceptez dans un pays 2, 3, 4 religions, l'unité est rompue et la puissance en est diminuée. C'était, n'est-ce pas, la vision de l'époque. On comprend. Alors, aussi, une petite parenthèse, qui a, n'est-ce pas, fait dire à Louis XIV, un roi, une foi et une loi, c'est, n'est-ce pas, ça a été extrait du compromis d'Augsbourg en 1555, empire de Charles Quint, où Charles Quint, empereur, s'est trouvé un petit peu gêné, parce que s'il voulait convertir tous les différents états de son empire au catholicisme, il y avait sécession. Il y avait scission. N'est-ce pas? L'empire était une confédération fragile, donc il a accepté, et c'est n'est-ce pas la fameuse formule, cujus regio et jus regio, tel prince, telle religion. Nous sommes dans cette pensée-là. Donc, le prince impose sa religion à son état. Vous voyez, n'est-ce pas, le problème du lien de religion. Les partis, alors en France, deux partis, naturellement, l'Union, l'Église catholique, les colonies protestantes. Rapidement, n'est-ce pas, un survol. Alors, je vais parler d'histoire, mais derrière, il y a la providence de Dieu. Quand j'ai étudié le sujet, j'ai passé quand même des heures sur ce sujet-là à l'étudier. C'est émouvant. De voir combien on a derrière une présence divine qui est là, discrète, qu'on ne voit pas, qu'on ignore, que les rois ignorent, les partis politiques ignorent, mais n'empêche qui est là, présente. L'effet, un événement à Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, nous avons en France, n'est-ce pas, une reine, Catherine de Médicis, qui a géré la France, on peut dire, de main de maître, pendant un petit demi-siècle. Femme de roi, mère de 3 rois, et belle-mère d'Henri IV. N'est-ce pas? Alors, 10 enfants, tous ces 3 enfants ont été rois, le dernier a été assassiné avant de pouvoir l'être. Le problème, c'est qu'elle va marier sa fille, Henri de Navarre, réformer le principe. Et naturellement, grand mariage à Paris. Tous les réformés, les dignités réformées viennent à Paris. C'est le moment idéal. Idéal pour faire la Saint-Barthélemy. Chacun avait, n'est-ce pas, sa cible, et c'était un carnage à Paris. Et les mois suivants, en province. Je passe aux événements. D'ailleurs, les historiens se posent des questions. D'où est parti le coup? Qui a fait le coup? Peu importe. Les conséquences sont intéressantes. Parce que, d'un côté, vous imaginez bien, le parti réformé est décapité. Il n'y a plus rien. Tous les dignitaires sont là, sont morts. Et puis, c'est l'abjuration, c'est l'exil, etc. Coup de théâtre. La providence de Dieu fait que, n'est-ce pas, en France, qui rappelle l'historique, bref, Capétien, Capet, et puis 3 branches. Capétien, les Valois, les Bourbons. Les Valois, avec Charles IX, s'interrompent, plus de descendants, Charles IX est assassiné, et sur son lit de mort, il dit, la couronne reviendra aux Bourbons, Henri de Navarre. Coup de théâtre. Autrement dit, on a décapité le parti réformé et on installe au pouvoir Un réformé. Oh, pas un réformé, pas un croyant, faut pas non plus rêver, mais quelqu'un intelligent et honnête. Il va naturellement faire abjuration, n'est-ce pas, la fameuse phrase, j'arrive au calmesse, n'est-ce pas, comme on dit, bon, abjuration, tout ce qu'il faut pour se divertir le pape, etc. Mais, souvenir de mes amis réformés. Et le voilà. Le voilà donc 1598, l'édit de Nantes. Donc, il se convertit, et ça va rester. Alors, après, l'édit de Nantes est un édit qui est fragile, un édit qui est irrévocable, comme tous les édits du roi, irrévocable, mais dernier article valable le temps que les protestants se convertissent au catholicisme. Édit fragile parce que des temples sont autorisés à condition qu'ils soient dans une distance acceptable par rapport au centre de la ville. Distance bien précisée. Avec ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Vous allez voir. Alors, question de l'édit Nantes. Plus inconciliable. Volonté royale limitée. Volonté catholique extirper l'hérésie, l'RPR, la religion prétendue réformée, etc. Louis XIII et Richelieu, et aussi l'édit de Nantes, vient à donner aux juguenots, aux protestants réformés, le droit d'avoir, n'est-ce pas, des places fortes. Différentes places fortes, d'ailleurs, bon, peu importe, je passe là aussi, de cela. Donc, Richelieu va, uniformité ça, Richelieu va intervenir sous Louis XIII, en sorte que, il n'y ait plus de ces places réformées, et chacun, n'est-ce pas, sera. Et il va confirmer l'édit de Nantes, en le restreignant. Louis XIV, lui, se lance dans une politique d'extirper l'hérésie protestante. Autrement dit, on va jouer sur trois points. On va jouer sur les commissaires d'État, qui vont vérifier si la distance prévue par l'édit de Nantes est bien respectée. Et inutile de vous dire que vous trouvez souvent qu'elle n'était pas respectée. Les ragonnades, on met, n'est-ce pas, dans les foyers réformés, les gendarmes, enfin les militaires à mourir, et puis ceux qui veulent bien abjurer, on leur propose, n'est-ce pas, des facilités fiscales. Fontainebleau, révocation de l'édit de Nantes, 1685, l'article de la démission des temples, traduction de la religion réformée, les pasteurs exilés, etc., etc., donc, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Bossuet, n'est-ce pas, en Bossuet, l'évêque de Meaux, bien connu, disait, mais il y a un problème, les protestants sont naturellement revenus au catholicisme. Voilà la vision officielle. La vision réelle est un peu différente. À peu près, n'est-ce pas, c'est ce qui s'est passé. Donc, finalement, édit de Nantes, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de protestants en France. Pas compliqué, il n'y en a plus. Alors, on dit, mais ça ne sert à rien. Et ça correspond bien à l'édit de Nantes. Quand tous les protestants sont rentrés, sont reconvertis, et voilà, cet édit n'aura plus de Nantes. Voilà pourquoi la carte, les foyers, si bien ça donne, n'est-ce pas, une carte en croissant, avec les centres des Cévennes et du Dauphiné, et puis un petit peu dans le sud-ouest. La tout officielle qui va, disons, c'est. Ça va changer un petit peu, parce que donc je passe à cette idée, parce que vous avez vu, n'est-ce pas, le coup de théâtre avec 1598, le Saint-Barthélemy, 1598, le retour du balancier avec Louis XIV, et maintenant, naît un problème. D'une part, Voltaire, qui n'est pas du tout réformé. Il n'aime pas les réformés. Mais, il aime la justice. Il va s'emparer de l'affaire Calas, un brave protestant de Toulouse, réformé de Toulouse, dont le fils est mort, naturellement. La raison, c'est lui qui l'a assassiné, qui l'a fait mourir, parce qu'il voulait, dit-on, il voulait se convertir au catholicisme. Il est roué, torturé. Quelques temps après, Voltaire reprend son procès à son compte et va faire accepter par la justice française que ce procès-là soit revu. Mais surtout, les magistrats. Imaginez un peu un peuple. Des centaines de milliers de personnes, bon, c'est pas toute la France, là, c'est un petit montant de l'ordre, mais n'empêche, qui n'existent pas sous le plan administratif, pas d'état civil, Rien. Du coup, aller faire des suggestions avec ça. Mais n'est-ce pas, c'est des auteurs de la salle, ils savent, n'est-ce pas, combien il faut de papiers officiels pour justifier de notre propriété. Aucun papier. Il n'existe pas. Et pourtant, la réalité des gens, mais ça appartient depuis le grand-père, ça appartient à ce brave monsieur. C'est les magistrats qui vont remonter, mais on s'en sort plus, nous. On a des problèmes sans arrêt. Et finalement, il y a une tolérance de Louis XVI, 1787, 1598, 1685, 1787. 100 ans, 100 petits ans, 102 ans. Voilà comment c'est géré, enfin, la liberté. Pourquoi? Ben, le problème, c'est, on ne peut ignorer une minorité sans droit. Ça devient évident. Il y a deux états civils en France. Et on ne peut contredire la question de l'île Nantes, de Fontainebleau. Mais il était dit que les protestants pouvaient bien penser ce qu'ils voulaient, dans la mesure où ils ne le manifestaient pas. Voilà de soi. Liberté de penser, pas d'expression. Les sujets non catholiques, voilà un extrait, tiendront de la loi ce que le droit naturel ne peut leur refuser. On ne peut rien contre la liberté de conscience. Et petit fait divers, en 1786, les protestants n'ont pas d'existence, 87, ils en ont une, 89, ils deviennent députés. Étienne Rabaud Saint-Étienne, pasteur de Nîmes, député à la Convention, élu aux États généraux, membre de la commission des Trente. Voilà, n'est-ce pas? Providence de Dieu. Il place ses pions au bon moment et suivant les besoins. Je passe les terres en parlant. Le plateau. J'ouvre sur le plateau. Le plateau, c'est un creuset des vies spirituelles. Depuis la fin du 7e siècle. C'est façonné un esprit sur le plateau. Alors, 500 km², une mètre d'altitude, d'ailleurs, voilà, c'est plus simple, la carte. Mais c'est le plateau, ce n'est pas une entité géographique, une entité culturelle, et je dirais même, c'est le bout du monde. Le bout du monde administratif. Parce que le plateau se trouve loin de l'évêché du Puy. Perdu. Le plateau n'a pas un climat d'hiver très facile. Et à l'époque, les chasse-neige sont plus rares quand même. Donc, inaccessibles. C'est ça, n'est-ce pas? L'hôtel du plateau, c'est pas une unité géographique, mais c'est le bout du monde. Le bout du monde, pardon, au niveau administratif. Loin de tout. Et de ce fait, ces grands sens sont ignorés. On les oublie. Donc pas. L'aspect religieux, ça a mis du temps, n'est-ce pas? Tardivement. Quatre diocèses sur le plateau. Et enfin, au bout du diocèse, fin fond des diocèses. Vous comprenez, n'est-ce pas, que l'évêque de service ne va pas sans arrêt aller voir là-bas ses braves ouailles qui sont là-bas au fin fond. C'est ça, n'est-ce pas, le plateau? Entre autres. Donc, et alors après, on peut mettre le plateau, et c'est fait la vallée de Rhône. De couleur rhodanienne. Et les braves gens vont, n'est-ce pas, ils prennent leur temps, ils n'ont pas de voiture, ils prennent leur temps pour monter avec les nouvelles, parce que par la voûte, bord la voûte, et ça passe, et ça et on vient, et on apprend. Un certain Marco Polis d'amener après la peine d'aller jusqu'à la Saxe écouter Luther. Et qui me savait qu'il dit de belles choses, Luther. La force sur le plateau, bon, j'en ai parlé, donc je vais accélérer un petit peu là-dessus, pour venir, voilà, une assemblée du désert. Alors, surtout, je voudrais installer, puisque je ne reste pas beaucoup de temps, je voudrais insister sur la résistance et comment s'est façonné cet esprit religieux. Les débuts. Ordonnance de 1679, donc, qui précède l'édit de Fontainebleau, à l'occasion de l'édit de Nantes. Destruction des temples du Chambon et de Saint-Bois. Je veux dire que, à la réforme, Chambon et Saint-Bois et Mathieu-Saint-Bois sont basculés à 100% dans la réforme. C'est pas 100%. L'Église est tout le temps. l'initiation d'une résistance passive. C'est la diminution rapide des actes de catholicité. On n'est plus baptisé, je ne suis plus baptisé à l'Église, on ne se marie plus à l'Église, on ne meurt plus à l'Église. Naissance rapide, plus rapide que prévu, et mort subite. Pas le temps de faire venir le prêtre. N'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce qui nourrit, n'est-ce pas, ces gens-là? C'est la Bible. La Bible, la Bible. La vie spirituelle. C'est une longue expérience qui va façonner l'esprit du peuple. Donc, le bateau, primé de temps, de pasteur. Et plus rapidement, de prédicant. Une géographie rude, qui isole, trempe de caractère. Un peuple de paysans, ne peut pas émigrer. Vous voulez emmener votre propriété sous le bras, ou votre savoir, ça ne sert à rien. On reste sur place. C'est le gros nom. On a plus sa famille. Et le hameau. Habitat dispersé. Il y a beaucoup de choses dans le plateau. C'est pas dans le plateau. Donc, du coup, il est dispersé. En France, c'était connu. Groupé, peut-être pas de bonne eau. Dispersé, il y a beaucoup de. Long apprentissage du silence et de la discrétion. C'est pas? Présence risquée, mais fidèle aux assemblées du désert. On y va. On se refuse, mais sans ostentation. On n'est pas là, on ne brave pas. On ne va pas se faire baptiser. On ne va pas se faire marier à l'église. On ne va pas demander un prêtre pour le service religieux. C'est le pasteur, c'est celui qui fait office d'eux, qui fait ça. Et pourtant, les pasteurs, ceux qui faisaient office de pasteur, gardent précieusement sur tous les actes de naissance, de mariage et de naissance. Et en 87, ils vont demander non pas seulement leur régularisation, mais leurs parents et leurs arrière-grands-parents. On voit les deux qui se baissaient, n'est-ce pas, devant les petits autorisés, tout l'entendre. Dès le 19e siècle, le SOT, vous voyez, n'est-ce pas, cette façon de l'esprit, je ne suis pas le temps d'en parler plus, mais bon, vous avez déjà les grands points, n'est-ce pas, qui ont façonné cet esprit religieux du peuple. Réveil au 19e siècle, c'est la Suisse qui initie le réveil. Et les dissidents de la Suisse, n'est-ce pas, là, dès que la persécution se termine, les réformés vont avoir, Peter en parlera, vont avoir la liberté, l'article organique de Napoléon Ier, la liberté, ouf, merci. Mais on va faire quoi? Un, former des pasteurs, deux, recruter des temps. Et rétablir l'autorité réformée de la réforme. Alors, donc, ceci, le problème est là. Et en même temps, les huguenots du plateau, est-ce que l'État, ils ont avec l'État des relations très confiantes? 100, 200 ans de persécution, ça pèse sur les générations, on se fait l'État. Si bien que quand Napoléon Ier va proposer, n'est-ce pas, aux réformés, les actes organiques, ils vont taper dans les mains. Mais les autres vont dire, attendez, mais l'État, nous, on ne veut pas être payé par l'État, on ne veut pas dépendre de l'État. N'est-ce pas, c'est le partage, l'Église du libre, les réformes. Et voilà. N'est-ce pas, c'est le problème de Napoléon Ier qui a créé ce. Mais que les évangéliques, comme j'ai dit au départ, seront revenus beaucoup plus tard. Dans les listes, dans le salut des frères. Alors, vous comprenez, n'est-ce pas, une étude qui attire. Les pasteurs, n'est-ce pas, sont des pasteurs barbés, par exemple. Qu'est-ce qui attire chez eux? Prière avant la prédication, toujours différente. Ses serments, toujours différents. Donne des explications simples, familières, compréhensibles. C'est tout le rappel, n'est-ce pas, de ces moments, de ces siècles où on a lu la Bible ensemble et quelqu'un avait un commentaire simple. Des assistants comprennent mieux. On nous parle de Jésus-Christ, de sa grâce. Et de ce fait, ils sont mal. Alors, voilà, n'est-ce pas, le projet des frères. Quand Darby est arrivé sur le plateau, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il a rencontré le public qui est d'accord, qui anticipe déjà la prophétie du petit réunion, la prophétie. Je n'ai pas parlé du prophétisme, qui est aussi un point important. Le temps d'en parler. La liberté. Le sacerdoce universel. On ne savait pas ce que ça voulait dire, mais on le pratiquait. Voilà un petit peu ce message. Et du coup, Darwin va rencontrer des gens, n'est-ce pas, qui sont tout à fait ouverts et qui refusent, n'est-ce pas, justement, de se retrouver dans des carcans de l'Église réformée avec tout son système. Conclusion. Bien, deux versets. Les réponses du Seigneur aux tentations. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole de Dieu. Et tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, il nous servira du seul. Nous devons de transmettre cette fidélité qui a marqué le plateau, la transmettre à ceux qui nous suivent. Et nous devons, par rapport à ceux qui nous ont précédés, de saluer leur courage et de saluer leur mémoire. Ils ont, pendant plus de deux siècles, souffert les pires atrocités, mais ils sont restés fidèles. J'aimerais pour terminer lire un début du psaume 25. J'ai tout le livre. Psaume 25. Le psaume de David a été mis en musique par Clément Marot, 16e siècle, qui était un plus partisan des réformes, accepté par François Ier à l'époque, avant les attaques des placards. Et autrement dit, donc, ce psaume 25 était chanté. Était chanté par les réformés, parmi nous, n'est-ce pas, en combattu. Psaume 25, pour terminer. À toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi j'ai mis ma confiance. Que je ne sois pas confus, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Non, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. Ceux-là seront confus qui agissent perfidement sans cause. Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel. Enseigne-moi tes sentiers. Fais-moi marcher dans ta vérité. Et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. C'est à toi que je m'attends tous les jours. Souviens-toi de ta miséricorde, ô Éternel, et de ta bonté, car elles sont de tout temps. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ou de mes transgressions, selon la gratuité. Souviens-toi de moi, à cause de ta bonté, ô Éternel. Oui, n'est-ce pas, ces réformés, ces huguenots, qui ont connu la persécution, ils avaient en vue l'espérance. Là, une confiance inébranlable en Dieu, qu'un jour brillerait un autre moment. Et la providence de Dieu a fait en sorte que ce moment soit arrivé. Maintenant, nous en profitons et en faisons.
Je vous propose un moment de louange. Ce psaume a été chanté hier soir au temple du Mazet par la chorale Aix-en-Bois. Éternel, fais-moi connaître tes voix. Et c'est pas celui-là que nous allons chanter. Il n'est pas là. Pourtant, je l'avais mis. Excusez-moi, tu peux l'indiquer et le chanter, c'est. Et l'entonner.
Le 53 des hymnes cantiques. On peut se lever pour chanter ?
Puissant sauveur, puissant est notre Dieu, béni tes saints, étranger décidant, en toi Jésus, notre âme se confie, que remplis nos cœurs de la
242, versets 2 et 3.
La foi, c'est se battre sans âme, tout perdre afin de tout gagner, chanter même en versant des larmes, même en souffrant déjà.
Cantique est pris dans les reflets, c'est tourner les yeux vers le Seigneur. Oui. Je pensais les avoir mis. Mais ça vient. Oui, je sais, mais c'est pas ce que je sais. C'est le 87 des reflets. Non. Excusez-moi.
Tournez les yeux vers le
Tournez les yeux vers. il est.